Troisième récit. Histoire de Francis Raven, continuée par Percy Fairbank. Nous prîmes congé de Francis Raven à la porte de Farley, en lui disant qu'il pouvait compter qu'il entendrait parler de nous prochainement. Durant la nuit suivante, Madame Fairbank et moi eûmes une discussion dans le secret de notre chambre. Le sujet en fut naturellement l'histoire du palefrenier, et la question que nous débattîmes fut de savoir ce que nous étions charitablement tenus de faire pour ce malheureux. Le point de vue sous lequel j'envisageais son récit était le point de vue purement matériel des faits. Francis Raven avait, dans mon opinion, trouvé une connexion mystérieuse entre son étrange rêve et sa méprisable femme, et, à force d'y penser, son esprit était tombé à ce sujet dans une erreur qui lui faisait voir certaines choses sous un faux jour. J'étais tout disposé à lui donner un secours en argent et à le recommander à mon homme de loi s'il courait réellement quelque danger ou avait besoin de conseils. Mais l'idée que je me faisais de mes devoirs envers lui n'allait pas plus loin. En face de ce point de vue raisonnable du sujet que nous discutions, le caractère romanesque de Madame Fairbank se précipita, selon son habitude, dans l'extrême opposé. « Je ne voudrais pas plus perdre de vue Francis Raven à l'approche de son prochain anniversaire que je ne voudrais laisser de côté un bon roman avant d'en avoir lu les derniers chapitres. Je suis positivement résolue, Percy, à emmener Francis avec nous quand nous retournerons en France en qualité de palefrenier. Qu'importe un homme de plus ou de moins à ajouter aux chevaux que possèdent des gens aussi riches que nous le sommes ?» S'obstinant ainsi dans ses idées, l'associé de mes joies et de mes ennuis demeura insensible à tout ce que je pus lui dire pour la ramener au sens commun. Ai-je besoin d'apprendre à mes frères en Hyménée comment finit cette discussion ? Naturellement, poussé à bout par ma femme, je lui dis quelques mots durs. Naturellement, elle se détourna de moi sur l'oreiller conjugal et fondit en larmes. Naturellement, en voyant cela, monsieur fit ses excuses et madame gagna son procès. Avant la fin de la semaine, nous revînmes à Underbridge et nous offrîmes à Francis de le prendre à notre service comme palefrenier supplémentaire. Dans le premier moment, le pauvre diable put à peine croire à sa bonne fortune. Comprenant enfin que ce n'était pas une illusion, il en exprima sa gratitude avec modestie et d'une manière convenable. Madame Fairbank, dont les sympathies étaient toujours promptes à s'épancher, parla de son domaine, en France, à ce brave homme usé par les chagrins qui avait fait grisonner déjà sa tête comme elle en aurait parlé à un enfant. « Ah, c'est une ancienne et belle maison, Francis, et quel beau jardin, et quelles écuries, 10 fois plus grandes que les écuries d'ici, puis des chambres excellentes pour vous. Il faut que je vous dise le nom de notre domaine, on l'appelle Maison Rouge. » La ville la plus voisine est Metz. Nous ne sommes qu'à peu de distance des rives de la Moselle. Et quand nous voulons changer d'air, nous n'avons qu'à prendre le chemin de la frontière et nous nous trouvons en Allemagne. » Francis, qui avait écouté jusque-là d'un air enchanté, tressaillit et changea de couleur quand ma femme acheva cette phrase. « En Allemagne ? » répéta-t-il. « Oui, ce mot réveille-t-il en vous quelques souvenirs oubliés ?» Le palefrenier baissa les yeux tristement. « L'Allemagne me rappelle ma femme, » dit-il. « En vérité, et comment ?» Elle me dit un jour qu'elle avait habité quelque temps en Allemagne, bien avant que je la connusse, quand elle était encore jeune fille. « Était-ce chez des parents ou chez des amis ?»« C'était dans une famille étrangère, comme gouvernante. »« Dans quelle partie de l'Allemagne ?» « Je ne me le rappelle pas, madame. Je doute même qu'elle me l'ait jamais dit. »« Vous a-t-elle dit le nom de cette famille ?»« Oui, madame. C'était un nom étranger et il est sorti depuis longtemps de ma mémoire. Le chef de la famille était un producteur de vin qui faisait de grandes affaires. Je me souviens de cela. »« Avez-vous vu de quelle espèce de vin il faisait commerce ? Était-ce en vin de Moselle ?»« Je ne saurais le dire, madame. Je ne crois pas l'avoir jamais su. » La conversation s'arrêta là. Nous promîmes d'écrire à Francis avant de quitter l'Angleterre et nous prîmes congé de lui. Je m'étais arrangé pour achever nos visites à nos amis en Angleterre et de retourner à Maison Rouge dans l'été. Sur le point de partir, quelques difficultés survenues dans l'administration de certaines propriétés que je possède en Irlande nous obligèrent à modifier notre plan. Au lieu de retourner en France dans l'été, nous n'y retournâmes qu'une semaine ou deux avant Noël. Francis nous accompagna et fut installé en qualité d'aide-palefrenier parmi les serviteurs de Maison Rouge. Quelques-unes des objections que j'avais faites à son admission dans notre domesticité, objections que j'avais inutilement fait valoir auprès de ma femme, ne tardèrent pas à trouver leur justification dans quelques incidents fort peu agréables. Francis, comme je l'avais prévu, ne tarda pas à vivre en mauvaise intelligence avec les autres domestiques. Ils étaient tous français et n'entendaient pas un mot d'anglais. Francis, de son côté, ignorait le français. Ses manières réservées, son caractère mélancolique, son goût pour la solitude, tout contribuait à les éloigner de lui. Il appelait l'ours anglais et il ne fut bientôt connu, dans tout le voisinage, que sous ce sobriquet. Des querelles s'ensuivirent et, une fois ou deux, on en vint au coup. Il fut évident, même aux yeux de Madame Fairbanks, qu'il fallait trouver un moyen de remédier à cet état de choses. Pendant qu'on y songeait, l'infortuné palefrenier fut victime d'un accident qui nous obligea à ajourner pour un temps la réalisation du changement que nous projetions. Toujours poursuivi par sa mauvaise chance habituelle, le pauvre diable eut une jambe cassée par un coup de pied de cheval. Il fut soigné par notre chirurgien dans sa chambre qui dépendait des écuries. Comme la date de son anniversaire approchait, il resta dans son lit. Au point de vue physique, il allait très bien, mais au point de vue moral, le chirurgien n'était pas satisfait. Francis souffrait d'un trouble mental secret qui l'empêchait de jouir, la nuit, d'un repos nécessaire. En apprenant cela, je pensais qu'il était de mon devoir de faire connaître à l'homme de l'art quelle était la nature de la souffrance morale à laquelle était en proie le malade. En homme pratique, il pensa comme moi que le palefrenier était sous l'empire d'une fâcheuse illusion au sujet de sa femme et de son rêve. « C'est, à mon avis, une illusion dont on pourrait le guérir, dit-il, si on en tentait l'essai bien sérieusement. » « Comment cet essai peut-il être tenté ? » lui demandai-je. Au lieu de me répondre, il me fit de son côté une question. « Savez-vous, par hasard, dit-il, que cette année est bissextile ?»« Ma femme me l'a rappelé hier, répondis-je. Autrement, je ne m'en serais pas souvenu. » « Pensez-vous que Francis sache que nous sommes, cette année, dans une année bissextile ?» Je commençais à entrevoir à demi où mon ami le chirurgien voulait en venir. « Cela dépend, il peut le savoir s'il a en sa possession un almanach anglais. Supposons qu'il n'en ait pas. Quelle est alors votre conclusion ?»« Dans ce cas, poursuivit le chirurgien, Francis ignore parfaitement que le mois de février, cette année, a 29 jours. Que fera-t-il nécessairement par suite de cette ignorance ? Il avancera d'un jour l'apparition de la femme au couteau et l'attendra à 2 heures du matin, le 29 février, au lieu du 1er mars. Laissons-le éprouver toutes ses terreurs superstitieuses le jour qu'il croit être le 1er mars. Laissons-le, le jour qui est précisément celui de son anniversaire, passer une nuit parfaitement tranquille et dormir d'un profond sommeil, comme tout le monde, à 2 heures du matin. Et alors, quand il se réveillera dans de bonnes conditions pour déjeuner, faites-lui honte de ses illusions en lui apprenant la vérité. » Je consentis à faire cette expérience, laissant au chirurgien le soin de prévenir Madame Fairbanks au sujet de l'année bissextile, et je me rendis aux écuries pour voir Francis Raven. Le pauvre homme était plein de ses appréhensions sur ce que lui réservait cette date fatale du 1er mars. Il me pria instamment d'ordonner à l'un des valets d'écurie de veiller auprès de lui pendant la nuit anniversaire de sa naissance. En lui en faisant la promesse, je lui demandai de me dire quel jour de la semaine tombait cet anniversaire. Il compta sur ses doigts et me prouva qu'il n'avait pas le moindre soupçon que nous fussions dans une année bissextile en fixant son anniversaire au 29 février dans la pleine persuasion que ce jour était le 1er mars. M'étant engagé à pousser jusqu'au bout l'expérience du chirurgien, je laissai naturellement Francis dans son erreur. En agissant ainsi, je fis mon premier pas, en aveugle, vers le dernier acte du drame qu'on peut appeler le rêve du palefrenier. Le lendemain amena avec lui une petite difficulté domestique qui se lia indirectement et étrangement avec la péripétie de ce drame. Ma femme reçut une lettre qui nous invitait à assister à un dîner en commémoration du mariage de deux dignes Allemands de notre connaissance, M. et Mme Beldheimer. M. Beldheimer était un gros marchand de vin des bords de la Moselle. Sa maison était située sur la frontière de la France et de l'Allemagne, et la distance qui la séparait de la nôtre était assez considérable pour nous obliger à passer la nuit sous son toit. Dans cette circonstance, si nous acceptions l'invitation de nos amis, un simple rapprochement de date démontrait que nous serions absents de chez nous dans la matinée du 1er mars. Madame Fairbank, persistant dans son absurde résolution de voir de ses propres yeux ce qui pouvait arriver ou ne pas arriver à Francis le jour de son anniversaire, refusa nettement de s'absenter de Maison Rouge. « Il est facile d'envoyer une excuse, » dit-elle avec résolution. Je ne voyais, quant à moi, aucun moyen facile de sortir de cette difficulté. Le dîner auquel nous étions invités, en commémoration de 25 ans d'une heureuse vie conjugale, et, en Allemagne, une fête religieusement observée. Et l'appel que fait l'amphitryon à ses amis, en pareille circonstance, est quelque chose d'équivalent à un ordre royal. Après une longue discussion, voyant que je ne pouvais vaincre l'obstination de ma femme, et sentant que l'absence de tous les deux à ce dîner offenserait certainement nos amis, je laissai Madame Fairbank faire ses excuses pour son compte, en la chargeant d'accepter l'invitation en ce qui me concernait. En agissant ainsi, je fis en aveugle mon second pas vers la péripétie du drame du rêve du palefrenier. Une semaine s'écoula. Les derniers jours de février arrivèrent. Une autre difficulté domestique se produisit, et cette difficulté se trouva étrangement liée avec la péripétie qui approchait. Le palefrenier en chef de mes écuries était un nommé Joseph Rigobert. C'était un assez mauvais drôle, extraordinairement vain de ses qualités extérieures et nullement scrupuleux dans sa conduite envers les femmes. Son seul mérite consistait dans son amour pour les chevaux et dans le soin qu'il prenait de ceux qui étaient confiés à sa garde. En un mot, il était un trop bon palefrenier pour être facilement remplacé, sinon je lui aurais donné son congé depuis longtemps. À l'époque dont je parle en ce moment, mon intendant me rapporta que Joseph Rigobert devenait paresseux et s'abandonnait à des habitudes immorales. Le principal grief allégué contre lui était qu'on l'avait vu ce même jour dans la ville de Metz en compagnie d'une femme supposée anglaise qu'il traitait dans une taverne quand il aurait dû être en route pour revenir à Maison Rouge. Il me dit, pour s'excuser, que la dame, comme il l'appela, était une anglaise qui ne connaissait pas la ville et qui l'avait seulement conduite, sur la demande qu'elle lui en avait faite, à un établissement où elle pourrait se rafraîchir. Je lui fis les réprimandes nécessaires sans me donner la peine de prendre de plus amples informations. En manquant à ce devoir, je fis mon troisième pas, en aveugle, vers le dernier acte du drame que je continue d'appeler le rêve du palefrenier. Dans la soirée du 28, les domestiques employés au service des écuries, informés que l'un d'eux devait passer la nuit à veiller auprès du lit de l'anglais, Joseph Rigobert s'offrit aussitôt volontairement à remplir ce devoir, comme un moyen, sans doute, de regagner mes bonnes grâces. J'acceptai son offre. Ce même jour, le docteur dînait avec nous. Vers minuit, lui et moi quittâmes le fumoir et nous rendîmes auprès de Francis. Rigobert était à son poste, le visage empreint d'une expression qui n'avait rien d'agréable. Le français et l'anglais avaient eu, évidemment, quelque altercation. Francis était étendu sur son lit et attendant en silence que les 2 heures du matin vinssent à sonner et que la femme de son rêve parut. « Je suis venu, Francis, pour vous souhaiter le bonsoir, » lui dis-je gaiement. « Demain matin, je reviendrai vous voir à l'heure du déjeuner avant de partir en voyage. »« Merci pour toutes vos bontés, monsieur. Vous ne me reverrez pas vivant demain matin. Elle me retrouvera cette fois. » Remarquez bien mes paroles, elle me retrouvera cette fois. Mon brave garçon, elle n'a pu vous trouver en Angleterre. Comment pourrait-elle vous trouver en France? J'ai dans l'esprit, monsieur, qu'elle me trouvera ici. À 2 heures du matin, le jour de mon anniversaire, je la reverrai encore et je la reverrai pour la dernière fois. Voulez-vous dire qu'elle vous tuera? Oui, monsieur, elle me tuera avec son couteau. mais Rigobert est là pour vous protéger. Je suis condamné. 50 Rigobert ne pourrait me protéger. Et cependant, vous m'avez demandé que quelqu'un veillât auprès de vous. Simple faiblesse, monsieur, je n'aime pas à être abandonné seul sur mon lit de mort. Je regardais le docteur. Pour peu qu'il m'y eût encouragé, j'aurais, par pure compassion, avoué à Francis le tour que nous lui jouions. Le chirurgien tenait à son expérience. Son visage me dit clairement « non ». Le lendemain, le 29 février, était le jour du dîner auquel j'étais invité. La première chose que je fis, le matin, fut de me rendre à la chambre de Francis. Rigobert vint au-devant de moi sur le seuil de la porte. « Comment a-t-il passé la nuit ?» lui demandai-je. « En disant des prières et regardant si le fantôme paraissait, » répondit Rigobert. « Une maison de fous est la seule place qui lui convienne. » J'approchai du lit. « Eh bien, Francis, vous voilà sain et sauf, en dépit de ce que vous m'avez dit hier au soir. » Ses yeux fixèrent sur moi un regard merveilleusement vide de toute expression. « Je ne vous comprends pas, » dit-il. « Avez-vous vu votre femme quand l'horloge a sonné 2 heures ?»« Non, monsieur. »« N'est-il rien arrivé ?»« Rien, monsieur. » »« Reconnaissiez-vous maintenant que vous aviez tort ?» Ses yeux continuèrent à fixer sur moi un regard merveilleusement vide d'expression. Il répéta seulement les mots qu'il venait de dire. « Je ne vous comprends pas. » Je fis un dernier effort pour lui rendre la gaieté. « Allons, allons, Francis, prenez bon courage. Vous serez sur pied dans une quinzaine. » Il secoua la tête sur son oreiller. « Il y a quelque chose qui ne va pas bien, » dit-il. « Je ne dois pas espérer que vous puissiez me croire, monsieur. Je vous dis seulement qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien, et le temps le prouvera. » Je sortis de la chambre. Une demi-heure après, je partais pour me rendre chez M. Beldheimer, laissant des instructions écrites dans les mains du docteur et de ma femme sur ce qu'il y avait à faire le matin du 1er mars. La seule chose qui attira mon attention quand je me trouvai au milieu des hôtes de M. Beldheimer est aussi la seule qu'il soit nécessaire de mentionner ici. Dans cette joyeuse réunion, une dame, pleine de distinction, se faisait remarquer par sa profonde tristesse. Cette dame était précisément l'héroïne de la fête, la maîtresse de la maison. Dans le cours de la soirée, je demandai au fils aîné de M. Beldheimer quelle était la cause de la tristesse de sa mère. À titre d'ancien ami de la famille, j'avais des droits à la confiance de ce jeune homme. Il reconnut volontiers. « Il nous est arrivé une chose désagréable, dit-il, et ma mère n'est pas encore remise de l'impression pénible que cet événement a produit sur elle. Il y a quelques années, à l'époque où mes sœurs étaient encore enfants, elles avaient auprès d'elles une gouvernante anglaise. Elle nous quitta pour se marier, à ce qu'on nous dit alors, et nous n'avions plus entendu parler d'elle lorsque, il y a 8 ou 10 jours, ma mère reçut une lettre dans laquelle notre ex-gouvernante se représentait comme plongée dans un profond dénuement. Après avoir beaucoup hésité, elle s'était décidée, sur les conseils d'une dame qui avait été bonne pour elle, à écrire à son ancienne maîtresse et à évoquer les souvenirs du passé. « Vous connaissez ma mère. Elle n'est pas seulement la plus généreuse des femmes, elle en est aussi la plus bienveillante. Il est impossible de lui persuader qu'il existe, dans le monde, des gens indignes de son indulgence. » Elle répondit, par le retour du courrier, à l'ex-gouvernante, une lettre qui l'invitait à venir la voir ici et qui contenait un mandat pour subvenir aux frais du voyage. Quand mon père rentra à la maison et apprit ce que ma mère avait fait, il écrivit aussitôt à son agent à Londres, le chargeant de prendre des informations sur l'ex-gouvernante. Avant qu'il eût reçu la réponse de cet agent, la gouvernante arriva. Elle fit la plus défavorable impression sur son esprit. La réponse de l'agent vint, peu de jours après, confirmer ses soupçons. Depuis que nous l'avions perdue de vue, cette femme avait mené la conduite la plus déréglée. Mon père lui parla en secret, il lui offrit, à la condition de quitter notre maison, une somme d'argent pour revenir à Londres. Si elle refusait, il a menacé d'en appeler aux autorités et de faire un scandale public. Elle accepta l'argent et quitta la maison. Il paraît qu'en retournant en Angleterre, elle s'est arrêtée à Metz. Vous comprendrez quelle espèce de femme c'est quand je vous dirai qu'elle a été vue, l'autre jour, dans une taverne, en compagnie de votre beau palefrenier, Joseph Rigobert. » Pendant que le fils de M. Beldheimer me faisait connaître ces circonstances, ma mémoire était en travail. Je me rappelais ce que Francis Reven nous avait dit de l'emploi que sa femme avait autrefois rempli comme gouvernante dans une famille allemande. Un soupçon de la vérité traversa soudain mon esprit. « Quel est le nom de cette femme ? » demandai-je. Le fils de M. Beldheimer répondit « Alice Warlock ». Je n'eus qu'une idée quand j'entendis cette réponse, ce fut de retourner chez moi sans perdre de temps. Il était alors 10 heures du soir. Le dernier train pour Metz était depuis longtemps parti. Je convins avec mon jeune ami, après l'avoir dûment informé des circonstances qui m'obligeaient à quitter si subitement la maison de son père, que je prendrais le premier train du lendemain matin au lieu d'assister au déjeuner avec les autres convives qui devaient passer la nuit chez M. Beldheimer. Maintes fois, pendant la nuit, je songeais douloureusement à ce qui pouvait se passer en mon absence à Maison Rouge. Maintes fois, la même question se présenta à mon esprit pendant mon retour le matin du 1er mars. Ainsi que les faits le prouvèrent, une seule personne chez moi a su exactement ce qui se passa dans mes écuries le jour anniversaire de la naissance de Francis. C'est Joseph Rigobert. Laissons-le prendre ma place comme narrateur et raconter le dénouement comme il le raconta par la suite à son avocat et à moi-même.